apprendre à se reconstruire par le corps. À Creil, le parcours Confiance en soi accompagne depuis cette année un petit groupe de femmes victimes de violences intrafamiliales. Conseils en images, self-défense, méditation chantée, au total 12 séances sont organisées pendant 6 mois par le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Dans ce podcast, vous allez rencontrer les victorieuses et entrer dans les coulisses de ce projet inédit.
Bonjour, je m'appelle Nolwenn, j'ai 32 ans. Je suis issue de la classe moyenne et je me bats chaque jour pour y rester. Après 11 ans de relation, mon ex-conjoint m'a jetée à la rue avec nos 3 enfants. J'aurais pu vous dire qu'après 10 ans de violence conjugale et intrafamiliale, notre cauchemar prendrait fin. Vous dire victoire, enfin libre. Mais pour être tout à fait honnête, 2 ans plus tard, le calvaire ne s'est toujours pas achevé. Alors, je vous dirais qu'après 12 ans de violence, je suis toujours là, debout pour nos enfants, survivante et toujours en mode survie. À l'âge de 19 ans, je rencontre celui qui deviendra mon conjoint et mon bourreau. De notre union naîtront 3 enfants. Les premières violences commenceront alors que nous emménageons ensemble. Injonctions contradictoires, crises de jalousie, menaces de suicide. Lorsque je tombe enceinte, quelques mois plus tard, les violences psychologiques s'intensifient. À mon retour de la maternité, je suis violée pour la première fois et la violence ne cessera plus. Elle sera tantôt directe, tantôt indirecte. Il contrôle notre vie, tel un tyran, un dictateur domestique. Il fait le ménage dans mon entourage et très vite, je me retrouve isolée. Seules les personnes acquises à sa cause resteront dans notre entourage, d'ailleurs. Quand nous nous sommes retrouvés à la rue, il m'a fallu intégrer le fait de passer d'avoir un emploi stable, une maison, des voitures, partir en vacances, peu consulter son compte bancaire, etc., à plus rien. Le néant. Juste 3 enfants, moi et ce qu'on portait sur nous ce jour-là. Aucune solution de relogement d'urgence nous sera proposée. Les gendarmes refusent de nous raccompagner chez nous et honnêtement, sans l'aide de ma famille, nous aurions dû dormir dans ma voiture. Il aura fallu plus d'un an pour obtenir un logement d'urgence, le refuge, comme nous l'appelons. J'ai changé d'emploi pour augmenter mes revenus et financer les frais de justice. 20 000 euros en 2 ans, et ce n'est pas fini. Chaque jour est une lutte pour répondre aux besoins des enfants. C'est-à-dire assurer leur sécurité à travers des décisions de justice, mettre de quoi manger dans leur assiette avec 190 euros de pension alimentaire par mois, les vêtir, payer leurs soins de santé, leurs activités extrascolaires, leurs vacances. Bref, 2 ans que je n'ai pas eu de vacances. Mes jours de congé sont réservés aux convocations judiciaires. Alors avoir tout perdu du jour au lendemain m'a permis de réaliser que la précarité peut toucher tout le monde. Et croyez-le ou non, se maintenir dans une classe sociale alors que tout tend à vous faire basculer dans la catégorie cassos, excusez-moi du terme, c'est une vraie bataille.
Donc, l'image de soi, c'est quoi ? C'est 3 ateliers en réalité, où on a le premier atelier, la colorimétrie, le deuxième atelier, la morphologie du visage et la morphologie du corps.
Cédrine Bartel est conseillère en images.
Pourquoi on a mis en place des ateliers images de soi ? Pour la simple et bonne raison, moi je suis conseillère à l'emploi, donc les conseillères à l'emploi, je suppose que vous en avez toutes vues. On vous aide pour vos lettres de motivation, pour vos CV, à définir votre projet professionnel, aux entretiens, mais après, ce qui est esthétique, c'est pas notre job, chacun son métier. Moi, je ne vais pas vous couper les cheveux parce que je ne suis pas coiffeuse. Je ne vais pas vous maquiller parce que je ne suis pas esthéticienne. Ce n'est pas du tout mes domaines de compétences. Sauf qu'on s'est dit, c'est bête parce qu'on ne va pas au bout.
Pied dans l'inconnu total. S'occuper de soi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je ne m'en suis jamais vraiment préoccupée. Je me suis toujours occupée des autres. Et donc là, s'occuper de soi... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça évoque ? Rien du tout chez moi. Bon, colorimétrie, coiffeuse, j'ai dû aller 3 fois dans ma vie chez le coiffeur. Donc vraiment, ça ne me parlait pas du tout. Et je me suis dit, bon, bah, par quel bout ils vont nous attraper et qu'est-ce qu'elles vont arriver à faire de nous ? Et finalement, à l'issue de cette journée, plein de bonnes surprises. apprendre à se découvrir, à connaître son corps sous un autre jour, les couleurs, s'occuper de soi. Alors, ok, on s'est occupé de nous, mais aussi on nous a montré comment nous occuper de nous-mêmes. Et ça, je trouve ça chouette parce que parmi tout ce qu'on nous a montré, il y a plein de petites choses en réalité qu'on peut mettre en place au quotidien.
La morphologie du corps est quelque chose qui fait très peur aux femmes, très peur dans le jugement. Et de voir comme tout à l'heure, une jeune fille, une jeune femme qui pleure que d'un compliment, on se dit que c'est malheureusement des personnes qui n'ont plus l'habitude d'avoir des compliments ou qui n'en entendent plus ou qui ne les entendent plus et de l'entendre de professionnels. Ça leur permet de se remettre aussi un smiley et peut-être de reprendre le temps de s'occuper d'elles-mêmes.
Bonjour, je m'appelle Laura et je vais vous raconter mon histoire. Tout commence il y a quelques années. Je rencontre un homme et ma vie se transforme en conte de fées. On part en voyage, on va régulièrement à Disney que j'adore. Il me demande même en fiançailles 6 mois après notre rencontre. On emménage ensemble, nous avons un enfant, nous nous marions. Petit à petit, les reproches commencent. Tu es trop fusionnelle avec notre enfant. Tu sors comme ça ? Un jour, dans un fast-food, sur la route des vacances, il me parle très mal, car je ne suis pas maquillée. J'ai juste envie de m'enterrer. Au moment de la commande, je croise le regard d'un homme derrière nous. J'ai eu l'impression qu'il avait pitié de moi. Quelques mois plus tard, j'emmène mon enfant de 7 ans voir une psy pour qu'elle interprète ses cauchemars. Il en fait beaucoup. Quelques jours après, elle veut me voir moi, seule. J'ai peur de ce qu'elle va me dire. « Êtes-vous une femme battue ?» Je lui réponds bien sûr que non. « Il m'a jamais frappée. » Je suis stupéfaite, choquée. Elle me dit qu'il existe aussi des violences psychologiques. Je n'y crois pas. C'est impossible. Je refais toute ma vie. Mais non, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, malgré la séparation et le divorce, j'ai toujours peur de lui. Moins qu'avant, c'est sûr. Mais il a toujours cette emprise qu'il utilise à travers notre enfant.
Bon, les filles, bon, vous êtes quoi là pour lui ?
Fatiguée. Corinne Pérez, adjudant-chef à la gendarmerie de l'Oise, est venue donner un cours de self-défense.
Toutes les attaques que vous avez vécues, elles sont injustifiées. Ça n'a jamais été de votre faute. Un conflit, c'est pas des violences. Un conflit, c'est ne pas être d'accord avec l'autre. C'est ça, un conflit.
C'était intense, on va dire, psychologiquement. Après, j'ai commencé la boxe par rapport à mon suivi déjà, mais je ne pensais pas que ce serait si dur. C'est toujours dur de taper sur quelqu'un, en fait.
Je les sentais stressés, je les sentais introvertis, je les sentais perdus. Je me suis dit, il faut qu'elle relâche un peu cette pression. Pour relâcher cette pression, c'est quoi ? C'est qu'on va chercher au plus profond de soi. Elles sont là parce qu'elles sont victimes de violences intrafamiliales. Elles sont là parce qu'elles ont été victimes de violences intrafamiliales. Et j'ai pu les mettre en condition, c'est-à-dire leur expliquer la culpabilité qu'elles ressentaient, leur expliquer la violence qu'elles ont ressentie. Et en fait, elles se sont probablement qu'elles se sont remises dans le climat de cette violence. Et les larmes ont coulé, ce qui a permis pour certaines, de se sentir mieux. Malgré ces larmes, elles se sont senties mieux. Elles m'ont fait confiance très rapidement. Aucun jugement, ça c'est important. Je leur ai expliqué que je n'étais pas là pour juger, que j'étais là pour qu'on soit un groupe, qu'on travaille ensemble et qu'on puisse travailler dans l'effort. Ce qu'il faut, c'est ressortir cette violence qu'elles ont subie. C'est des cicatrices. Donc, c'est pouvoir en fait, accepter ces cicatrices et utiliser ces cicatrices comme une force. C'est-à-dire, j'ai subi, mais c'est fini. Je suis blessée, mais je vais guérir. Donc, lorsqu'on fait des flashbacks comme ça, ça permet de se dire, mais ça, c'était avant. J'ai avancé, j'avance tout doucement, mais ça, c'était avant. C'est pour ça qu'en fin de séance, je leur dis qu'il faut revenir, en fait, au jour d'aujourd'hui. J'aurais demandé la date, à quelle heure on était, pour qu'elles ne restent pas, en fait, dans ce passé. Là, elles ont avancé, chacune avance à leur façon, à leur manière, elles prennent le temps. Donc oui, il y a des flashbacks et c'est volontaire, c'est normal. C'est normal que c'est la reconstruction. Il faut savoir qu'on a été construit, que lorsqu'on subit des violences intrafamiliales, on est déconstruit. Mais on est construit à l'image de notre bourreau. Donc déjà, il faut qu'elles comprennent que ce qu'elles sont actuellement, ce n'est pas elles. Il faut qu'elles reprennent en fait, qu'elles reprennent leur vie, qu'elles reprennent leur image, qu'elles reprennent leur corps. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, tu as avancé. Et donc oui, et les larmes font partie de la guérison. Elles ont travaillé 2 heures là ce soir. Et j'ai fait énormément d'exercices sur en fait le foncier, c'est-à-dire sur des exercices assez intenses. Pourquoi ? Parce que la fatigue évacue en fait, et ça laisse place à toutes ces cicatrices. Ça repousse en fait les limites.
Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans. La première fois que je l'ai rencontré, c'était sur mon lieu de travail. Souvent, il venait me parler, je l'écoutais, on rigolait et il était très attentionné. Il m'offrait toujours un croissant qu'il m'apportait sur mon poste. Nous avons commencé à nous voir en dehors du boulot, on faisait des cinémas, des restos. Les semaines, les mois, les années sont passées, je suis tombée enceinte en décembre 2011. Il n'est jamais là. Quand je lui demande de participer pour faire les courses, il me donne 40 euros en me disant « ça suffira amplement pour ce que tu as à faire avec ». Bref, je prends sur moi, je patiente encore. Une nouvelle dispute éclate, je décide de lui dire que cette situation ne me convient plus et qu'il fallait prendre une décision, soit il change, soit la séparation est imminente. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, que je reçois un enchaînement de violences, coups de poing dans le visage, coups de pied dans le ventre. Je suis tétanisée. Ce qui me fait revenir à moi, ce sont les pleurs de mon fils, qui dort dans la chambre à côté. Il se dirige vers la chambre, il le prend et me dit qu'il va partir avec et que je ne le reverrai plus jamais. En attendant, j'appelle la police. Je les aperçois qui montent les escaliers. Ils lui demandent de me rendre le petit. Il se retourne vers moi en me disant « Tu as osé appeler la police ?» Et là, il jette le petit de 8 mois dans les escaliers. Et il se retourne vers moi pour essayer de m'attraper et de me frapper à nouveau. La police l'attrape et l'embarque avec bien du mal. Un policier me ramène le petit et me dit que les pompiers arrivent pour me soigner et nous prendre en charge. Finalement, le petit n'a rien, même pas un hématome. Dans la foulée, j'ai été déposée plainte. Le petit a quand même été hospitalisé pendant quelques jours, sous surveillance. Au bout de 4 jours, nous rentrons à la maison. Je reçois un appel de la police qui m'annonce que monsieur ne rentrera pas jusqu'au jugement. Monsieur a pris 18 mois de prison, dont 6 mois ferme. 10 ans après cette histoire, il n'a jamais fait valoir ses droits, il n'a jamais revu mon fils. Et c'est tant mieux.
Bienvenue à ce cours de méditation en Kundalini.
Maud Jarige est professeur de yoga.
Donc vous allez commencer par donc garder le dos bien droit, fermer les yeux, mettez les mains dans un premier temps sur les genoux. Et concentrez-vous sur votre respiration. Nous allons chanter 3 fois le premier mantra. Om Namo.
La parole c'est bien, mais ça suffit pas parce que bien sûr, comme elles ont subi des traumatismes, elles sont complètement déconnectées de leur corps.
Louise Guitté, juriste au CIDFF, est à l'initiative du parcours Confiance en soi.
On est vraiment dans un phénomène de dissociation continue chez les femmes victimes de violences et du coup, elles ont vraiment l'impression, et ça elles le disent souvent dans leurs témoignages, qu'elles sont au-dessus des choses quand elles vivent les choses et l'objectif, c'est de les reconnecter à leur corps pour retrouver une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles, pour sortir de cette emprise, même si elles sont séparées, bien sûr, bien souvent elles l'ont encore comme elles ont les enfants. Et les enfants, pour l'agresseur, c'est aussi un moyen de garder l'emprise sur elles. Et donc le but du parcours, c'était vraiment ça, travailler l'estime de soi et la confiance en soi par un accompagnement pluridisciplinaire.
Bonjour, je suis Marie-Amélie Richard, je suis la psychologue au CIDFF de l'Oise. Je participe au parcours confiance en soi parce qu'on a accompagné avec Louise d'abord ces femmes-là dans les groupes de parole. Et donc on anime ensemble le parcours, donc on a toujours un temps au début où on les accueille. Et à la fin de la journée, on prend un temps pour savoir comment elles ont vécu la journée, ce qu'elles ont retenu, si elles ont trouvé ça difficile et ce qu'elles ont appris pendant ces séances. Je pense que ça leur a apporté énormément de choses. Donc, il y a eu déjà les groupes de parole où elles ont cheminé à travers la parole en écoutant les autres et en partageant leur histoire. Et avec le parcours Confiance en soi, c'était vraiment un travail autour du corps où elles se sont reconnectées à leur corps, reconnectées à leurs émotions, leur corps qu'elles ont souvent mis de côté pendant tout le temps où elles ont vécu les violences. Et donc, à travers les séances, que ce soit le yoga, le théâtre, la journée sur l'image de soi et aussi beaucoup la self-défense, elles ont fait des choses, je pense, dont elles pensaient qu'elles étaient incapables de les faire. À travers leur corps, à travers ces activités, elles ont repris confiance en elles se sont reconnectées à elles et elles se sont remises un peu au centre de leur vie, alors que pendant très longtemps, elles se sont mises de côté.
Pour l'instant, on est dans un essai, c'est un exercice. Hein. On va voir après si on va le réadapter. L'objectif, c'est qu'il ait lieu tous les ans. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est deux groupes de parole. On est obligé d'avoir suivi les groupes de parole pour pouvoir adhérer au parcours parce que c'est vraiment un processus continu. Je suis convaincue que l'approche pluridisciplinaire, c'est l'approche la plus complète pour l'accompagnement des victimes de violences pour sortir de cette emprise.
Je me présente, je m'appelle Sonia, j'ai 43 ans. Je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie, mais ça a été la leçon de ma vie. Il était tout ce qu'on rêve qu'un homme soit avec nous, gentil, attentionné, plein de compliments et drôle. Tout ça jusqu'au jour où j'ai eu la bague au doigt. Pourtant, j'ai eu quelques prémices le jour J. Il s'énervait pour rien, très fort, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention et mis ça sur le stress du mariage. La fête terminée, il ne s'est pas passé 2 semaines avant qu'il me dévoile son vrai visage, colérique et sombre, pas drôle pour un sou. Il me matraque de mots blessants, se comporte avec agressivité, il me juge. Ça peut être de manger trop sucré. Il me rabaisse, de la plus belle je suis passée à la plus moche. Il m'humiliait, les journées passées se ressemblaient. C'était devenu le quotidien sans fin. Un jour alors que j'allais sortir avec une longue robe noire, il m'a fait retourner dans ma chambre en me gueulant dessus. « Où tu vas comme ça? Tu crois que tu vas à la plage? On voit tes formes. » Alors que, pas du tout. Je me suis sentie tellement mal que, depuis ce jour, je me suis mise à m'habiller chez CNA, un magasin de vêtements longs que j'avais jamais fréquenté jusque-là. Depuis le mariage, j'étais comme acquise à ses yeux. J'avais plus le droit au respect ou une quelconque considération. Plus j'étais mal, plus il se sentait au-dessus de moi et m'écrasait, sans que je n'arrive à réagir. Je ne suis pas faible. Je ne me suis jamais laissée faire, par qui que ce soit. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis bloquée quand il s'adresse à moi. Il me disait « Le frigo, c'est quand que tu le nettoies ?» Ou alors « Quand tu passes l'aspirateur, bouge les meubles !» Ou encore, tu vas où avec cette tenue? Pourquoi tu portes des couleurs vives? Pour qu'on te remarque à l'autre bout du trottoir? Je devais aller tous les week-ends dans sa famille. Je voyais de moins en moins les miens. Mes amis aussi. J'en étais arrivée à ne plus décrocher mon téléphone, à le mettre sur silencieux car ça l'énervait. Je me suis enfermée dans une routine, travail, course, famille. Sa famille. Et lui, absent. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Mais écrire 8 ans d'une vie, c'est compliqué. Alors j'aimerais vous dire une chose que j'aurais aimé entendre il y a 8 ans. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne valez rien. Gardez confiance en vous et ne vous enfermez pas dans le silence. Parce que c'est une arme qu'il utilisera contre vous.
Venez d'écouter Les Victorieuses. Heureuse, un podcast du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, réalisé par Radio Graphite.
Merci aux deux animatrices du parcours Confiance en soi, Marie-Amélie Richard et Louise Guittet, respectivement psychologue et juriste au CIDFF de l'Oise. Merci aux professionnels intervenant dans le parcours, à la Grange à musique de Creil. Et enfin, un remerciement tout particulier aux femmes du groupe pour leur confiance. Thank you.